102.1.
Hey, Boulevard 101, l'émission d'en jazz, 13h28. Je vous rappelle que le Canada l'a emporté 4-3. Mitch Marner a marqué en prolongation. Prenez cette bonne nouvelle en note parce que, Mathias, on a une mauvaise nouvelle pour nos camps de jour.
Oui, on stressait parce qu'on savait qu'il allait avoir des coupures dans les camps de jour. C'était sorti, on stressait parce que, selon les informations, c'était évalué une possibilité comme quoi on allait réduire les places en camp de jour. Puis on sait que c'est déjà rare. On vient d'annoncer du côté de la Ville de Québec aujourd'hui que ce n'est pas des places qu'on va réduire en camp de jour pour faire face aux coupures qu'on met en place, mais plutôt on va augmenter les tarifs. Donc, à partir de cette année, ce sera 82 $ par semaine pour justement inscrire votre enfant au camp de jour au lieu de 68 $ l'an dernier. Donc, une augmentation de 14 $ par semaine.
On déneige vos pistes cyclables à coût de 14 $ de plus au camp de jour pour les familles qui ont de la misère à payer ça. Wouhou! C'est une bonne nouvelle, mais oubliez pas, le Canada a gagné 4-3. Bon, OK, on s'en va rejoindre Lambert Drainville directement de Montréal, qui a adoré ce but de Mitch Marner. J'en suis convaincu. Lambert qui est avec nous à chaque mercredi aux alentours normalement de 13h10 et les vendredis avec Farnell Morisset à midi. Lambert, es-tu comme moi, là? Es-tu fou?
Jeff, je me suis remis du déo, c'est pas des farces.
Ça teste,
tu sais, quand tu as les pubs de déo puis ça dit que ça va être, tu vas être à sec pendant 48 heures. C'est factuellement pas vrai, en tout cas, pour ce qui est du mien. Parce que, tabarouette, que j'ai eu des sueurs froides.
Ceux qui voient sur Twitch, j'ai les manches de chemise remontées. D'habitude, j'ai un chandail par-dessus ma chemise. Je suis certain que j'ai le dos mouillé à l'heure actuelle.
Ah, écoute, c'était... La check-in, ils ont fait des belles, hein, surtout au championnat junior.
Ben, c'est
là.
Ça! Je voyais tellement ce scénario-là encore revenir, là, de la check-in qui nous surprend. Ouf!
Et qui d'autre? Qui d'autre, Jeff, que Nick Suzuki, capitaine du Canadien,
oui.
Que tout le monde a critiqué, que tout le monde disait il devrait être mis sur le banc pour le match éliminatoire.
Ouais.
Et finalement, qui va marquer le but égalisateur pour envoyer le match en prolongation. Écoute, mon gars, c'est un merveilleux tournoi qui se poursuit. Puis vraiment, là, les Olympiques, à chaque fois, ça nous fait vivre vraiment des belles émotions. Puis, on dirait, avec l'ajout de toute l'espèce d'atmosphère, là, avec ce qui se passe avec les États-Unis, puis tout ça, on dirait que ça en rajoute une couche là, de notre fierté nationale là, quand on regarde nos athlètes pratiquer leur sport. Là,
vraiment. Là,
c'est vraiment fantastique.
Lambert, tu as dit fierté nationale et la face d'Antonine s'est transformée en baboune nationale.
Ouais, j'avais oublié que ma chère amie était autour de la table.
Ouais, hein, c'est ça. Je me suis sentie oubliée pendant un instant. Ta fierté nationale canadienne, là.
Oui, c'est ça. Je suis pas surpris que tu aies fait cette face-là. Tu le sais où est-ce que je me range aussi à ce niveau-là.
Mais t'es comme Jeff. Bon. C'est que quand il arrive des affaires de même, tout à coup, là, le Québec
on
prend le bord.
On a notre drapeau du Canada
ben oui.
Sur le dos.
C'est pas que le Québec prend le bord, mais c'est juste que tabarouette, on n'en a pas d'équipe québécoise pour l'instant. Fait que là, on se rabat sur l'autre équipe. Puis mine de rien, mais le capitaine du Canadien, qui est notre équipe ici au Québec, et celui qui a égalisé la partie, fait que...
Oh,
on a de quoi être fiers. On a de quoi être fiers à tenir le drapeau du Canada.
On est fiers de notre Canada. OK, Lambert, une place où on était moins fiers, par exemple, c'est avec le dossier Saclic, rapport déposé par le commissaire Galland. T'en penses quoi? Les oppositions ont dit « Hey, on n'a pas été assez féroce dans le rapport envers les ministres en place. On a planté la sac. » Toi, tu te situes où là-dedans?
Mais Jeff, je te propose ce matin qu'on fasse ce que les partis politiques à l'Assemblée nationale semblent visiblement incapables de faire, c'est-à-dire se mettre en mode solution.
Ah, j'aime
ça! Je regarde ça d'un point de vue d'un citoyen québécois là, qui a vu l'État et la SAC dilapider des centaines de millions de dollars dans ce projet-là. Et là, le rapport sort, le rapport est volumineux, c'est un travail extrêmement rigoureux. Le rapport est assez clair aussi, là. Et là, tu les entends d'un côté, le gouvernement dire bon, ben, on nous a menti, on nous a sciemment menti au point de vouloir possiblement poursuivre là, les hauts dirigeants de la SAC. Puis c'est vrai, là, c'est vrai qu'ils se sont fait mentir. C'est mentionné que ce soit Geneviève Guilbeault qui avait reçu des chiffres de 458 millions alors que le contrat était de 682. Elle avait en sa possession des fichiers puis des PowerPoint qui contenaient l'information, mais à chaque fois, c'était présenté dans une manière pour dire tout est beau, tout est correct. Même chose pour le bureau du premier ministre. Puis de l'autre côté, ben, tu as les oppositions qui, justement, eux autres vont dire ça n'a pas de bon sens. comment que le gouvernement a été irresponsable, met la faute sur le ministre Bonnardel, Guilbeault, ministre des Finances, la secrétaire générale Dominique Savoie. Et c'est vrai, encore une fois, que ces gens-là aussi avaient une certaine forme d'information, mais à chaque fois qu'on le mentionne, le commissaire Galland revient et dit que... comment il dit ça? La commission note néanmoins que la SAAQ continue de présenter des dépassements de coûts comme étant des élargissements de portée. Bref, tout le monde a raison. T'sais, le gouvernement, essentiellement, n'était pas le premier responsable. Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité? Certainement. Mais le juge a mis la part de responsabilité du gouvernement au chapitre 12 du volet 2 du rapport sur 12. Fait que s'ils étaient les grands responsables, le gouvernement, il serait bien avant ça.
Mais là, on fait quoi, là? T'sais, on fait quoi avec ça pour pas que Santé numérique nous coûte 14 milliards?
Mais c'est ça l'autre affaire, là. C'est que là, tes voix, c'est la faute à l'un, c'est la faute à l'autre. Ça me rappelle quand on était jeune, puis tu sais, tu te signais avec ton frère, puis ta mère, elle disait, je m'en sac de savoir c'est qui le responsable, je veux juste plus que ça se reproduise. C'est un peu la même chose dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Les Québécois regardent ça, puis disent, hey, c'est notre argent, c'est un demi-milliard qui a été tiré par les fenêtres. Puis là, tu as d'autres projets numériques. Tu vois ce qui se passe au fédéral là, avec le système des retraites. Tu as vu ce qui s'est passé avec l'application ArriveCan. Tu as le DSN qui est déployé. Tu as un paquet de projets numériques qui sont déjà déployés présentement, qui sont déjà présentement en dépassement de coûts. On le souhaite qu'il soit le moins possible. Alors, pour éviter que ça continue, cette espèce de folie-là, de jeter de l'argent par les fenêtres aux mains des grandes compagnies informatiques, est-ce qu'on peut justement se mettre en mode solution? Et ce que le rapport met de l'avant par rapport à où est-ce qu'on devrait mettre l'emphase d'abord et avant tout, c'est au niveau de l'expertise. Puis on s'en est déjà parlé, Jeff. Il faut être en mesure de ramener de l'expertise informatique au sein de l'État et de la garder. Parce que présentement, la chose, le constat principal pour moi de ce rapport-là, c'est que le niveau de dépendance du gouvernement par rapport aux fournisseurs externes et le manque d'expertise à l'interne du gouvernement pour challenger les choix technologiques. Et c'est ça les deux plus gros enjeux.
Ouais,
alors, il faut trouver un moyen de... Vas-y.
Challenger, c'est bien, mais aussi être capable de bien définir son besoin avant même de faire appel aux entreprises externes. T'sais, on est tellement pas bon qu'on n'est même pas capable de savoir ce dont on a besoin. Fait que c'est vraiment un enjeu. J'écoutais le point de presse de France-Hélène Duranceau hier. Puis je trouvais que du côté du gouvernement, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais on insistait beaucoup sur les gestes répréhensibles de la SAAQ. Là. On va poursuivre les pas fins, là, puis les pommes pourries là, qui ont... Tu sais, j'ai l'impression que ça peut être l'arbre qui cache la forêt, dans le sens que si on se concentre juste là-dessus, on risque de passer à côté aussi, parce que, tu le disais, c'est le manque d'expertise, c'est les processus, on n'a pas été capable de bien surveiller les contrats informatiques puis les projets. Tu sais, si le gouvernement se concentre seulement sur l'aspect malversation, on va passer à côté, là, parce que c'est pas juste ça. Là. Les autres fiascos que tu as nommés tantôt, Carl Malenfant n'était pas là, là.
Exact. Puis c'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour le gouvernement du Canada, puis c'est vrai pour, bien honnêtement, pratiquement tous les gouvernements en Occident, à tout le moins, qui ont de la difficulté avec ce genre de contrat-là, parce que l'enjeu est le même. Tu as juste une poignée de compagnies très, très spécialisées qui sont en mesure de mettre en place des projets et des programmes de cette envergure-là. Et c'est la recommandation principale du commissaire de mettre en place une entité centralisée qui doit se doter d'une expertise à ce niveau-là. C'est la première recommandation. Personnellement, moi, je ne suis pas un grand fan d'encore une fois rajouter des structures, surtout sachant que dans les dernières années, bon, il y a eu le ministère de la cybersécurité qui a été mis en place avec le dirigeant principal de l'information et ses vis-à-vis dans chaque ministère. Donc, il y a déjà des entités qui sont en place pour ça. Je pense que rapidement, l'objectif, ça devrait être de les regrouper. Et qu'est-ce que tu veux? Au final, aussi, une des raisons pour lesquelles l'expertise est constamment dans les entreprises privées et non pas du côté du public, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est qu'au privé, ils ont des salaires plus élevés, ils ont des primes, ils ont des stock options, ils ont une flexibilité qui est pratiquement totale. Alors, on n'aura pas le choix éventuellement de se dire, ben, si on veut avoir de l'expertise, il faut être capable de compétitionner avec les conditions qui sont offertes assez talents-là, ces cerveaux-là qui sont des machines d'informatique, mais il va falloir leur offrir des meilleures conditions, plus de flexibilité, moins de lourdeur administrative et surtout des salaires plus élevés.
En terminant, en bas, t'en penses quoi de mon idée de dire, hey, moi, là, je prends les 2-3 meilleurs au Québec, je les paye 5-6 millions par année, puis ils nous gèrent ça. Puis de cette façon-là, je vais économiser parce que de toute façon, on a un dépassement toujours de centaines et de centaines de millions de dollars.
Ouais, je pense que ça va prendre plus que ça, que deux, trois personnes pour régler nos problèmes. Mais chose certaine, je le vois un petit peu de la même façon que toi, Jeff. Il nous faut, pour reprendre l'expression de M. Dubé désormais fameuse, il nous faut des top guns. Il nous faut des top guns informatiques à l'intérieur de la machine qui vont être là et qui vont rester là, qui vont être là lors de l'implantation des programmes, qui vont suivre leur développement puis qui vont avoir l'expertise en question pour négocier ces contrats-là si on veut mettre à jour ces systèmes-là un jour. Et pour ça, ben, ça prend de la volonté politique, puis ça prend, qu'est-ce que tu veux, des ministres et des gouvernements qui sont prêts à « put your money where your mouth is » et de dire si on veut avoir de l'expertise, ben c'est plate, mais il va falloir payer pour l'avoir. Puis en 2026, alors que l'intelligence artificielle est partout autour de nous, l'informatique est absolument partout, et beaucoup de nos enjeux en termes de productivité vont dépendre de technologies plus efficaces, eh bien, je pense qu'on est rendu à l'époque de dire, ben, on doit payer plus cher ces gens-là. Ils sont devenus des morceaux trop critiques de ce qu'est l'État québécois et ce qu'on veut faire de l'État québécois pour la suite. Et moi, je pense qu'on doit regarder aussi ce qui se fait ailleurs. Il y a des pays, des petits pays. Je regardais, avant d'entrer en onde, l'Estonie, par exemple, qui est un modèle mondial en matière d'architecture informatique. Un petit pays. C'est qu'on peut regarder ce qui se fait ailleurs, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Mais encore une fois, pour ça, il faut de la volonté politique. Et je terminerai en disant, bien, de la même façon que j'ai commencé, je pense que les Québécois qui ont vu tout le déroulement de la commission Galland, les témoignages, les ministres, le PM, machin, en ont un petit peu soupé là, de savoir l'argent qui est parti, on ne la retrouvera pas.
Non, c'est ça.
Pas en perdre plus. Et mettons-nous tous, parce que tous ces parlementaires-là sont élus par le peuple pour représenter le peuple dans la maison du peuple, ben faites donc en sorte que ça arrête de nous coûter des centaines de millions au peuple. Arrêtez de vous pointer du doigt et à demander « c'est la faute à qui? Qu'est-ce qui est arrivé il y a 4 ans? » C'est arrivé, c'est ça. On peut-tu regarder en avant, établir les solutions, puis rapidement, pour éviter que les contrats qui sont présentement en train de se faire, les programmes qui sont présentement en train d'être mis en place et d'être réformés, ben, qu'on arrête de jeter de l'argent par les fenêtres.
Je suis entièrement d'accord, Lambert Drainville. On se reparle vendredi avec Fernel Morisset.
Absolument.
Va fêter la...
Comment? Vas-y.
Va fêter la victoire du Canada.
Ouais, qu'est-ce que t'allais
dire? C'est pas gagné, hein? Ben, j'allais dire, j'allais saluer, ma chère Antonine.
Salutations!
Yes!
C'est un plaisir d'être ensemble autour du micro en personne, éventuellement.
Exactement, Anto, qui a une idée folle et extraordinaire pour notre soirée électorale.
Ah oui.
Ça a été accepté par les grands patrons.
On va faire un party, vous
on
allez
va faire
voir.
Un vrai beau party, on vous en reparle. Après, dans un instant, après cette courte pause, on s'en va rejoindre le collègue Alex Laramin pour parler de cette victoire du Canada en hockey à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101.